Chapitre 46. Harman vécut la chute d'Ardis en temps réel. Jusqu'ici, l'expérience du Turin, voir, entendre, observer par l'entremise d'un témoin invisible, avait toujours représenté pour lui une distraction passionnante mais dénuée de sens. Aujourd'hui, cela devenait une variante de l'enfer. En lieu et place d'une guerre de Troie absurde et sans doute fictive, il avait droit à un assaut sur Ardis dont il sentait, dont il savait qu'il était bien réel, soit qu'il se produisit en ce moment même, soit qu'il ait été récemment enregistré. Il passa plus de 6 heures sous l'étoffe, arraché au monde réel. Il observa les événements depuis la première attaque des Voynix peu après minuit, jusqu'au lever du soleil lorsque le Sony fuyait un château en flammes avec à son bord sa bien-aimée Ada blessée, en sang, inconsciente, qu'on avait chargée comme un vulgaire sac de patates. Harman fut surpris de découvrir que Pétir était rentré avec le Sony. Où étaient passés Anna et Odysseus? Et il poussa un cri déchirant en le voyant tomber du véhicule, atteint en plein crâne par un projectile Voynix. Nombre de ses amis étaient morts ou mourants. La jeune Péaenne, grièvement blessée par un rocher. La belle Aimée, brûlée vive dans une douve après avoir eu le bras tranché. Rayman, brûlé lui aussi. Et Salas et Oéléo, mortes elles aussi. Les armes que Pétir avait rapportées du Golden Gate à Machu Picchu n'avaient pas suffi à endiguer la marée des Voynix. Harman poussa un gémissement sous le Turin rouge sang. 6 heures après qu'il eut activé les micro-circuits, les images cessèrent et Harman se leva d'un bond et jeta le tissu loin de lui. Le mage avait disparu. Harman se rendit dans la petite salle de bain, utilisa l'étrange siège de toilette, tira sur la chaîne pour faire couler de l'eau, se planta devant le lavabo pour se laver le visage, puis but à grandes goulées l'eau du robinet. Il sortit et fouilla la cabine de fond en comble.
Prospero ! Prospero !
Les échos de ses cris résonnaient sur les cloisons métalliques. Arrivé au second niveau, il ouvrit les portes donnant sur le balcon et sortit. Il sauta sur l'échelle sans se soucier du danger et grimpa à toute allure sur le toit de l'édicule. L'air était frigorifiant. Il avait passé toute la nuit sous le Turin et un soleil glacial poignait à sa droite. Les câbles filaient vers le nord en prenant de l'altitude. Planté au bord du toit, Harman regarda droit en dessous de lui et comprit que cela faisait sans doute des heures que les Felban étaient entrés dans les montagnes. Durant la nuit, il avait laissé derrière lui la jungle, la plaine et même les contreforts de la chaîne.
Prospero !
Les échos de ses cris résonnaient sur les rochers, plusieurs dizaines de mètres en contrebas. Il resta sur le toit jusqu'à ce que le soleil se soit élevé de 2 mains au-dessus de l'horizon, sans lui dispenser une quelconque chaleur. Il constata qu'il se gelait. Les Felban le transportaient dans un royaume de glace, de roches et de ciel, il avait laissé la verdure derrière lui. En baissant à nouveau les yeux, il aperçut un fleuve de glace, un glacier, ainsi qu'il l'avait appris grâce au siglage, qui sinuait entre pics rocheux et pointes de glace, un grand fleuve d'une blancheur éblouissante, lézardé de crevasses et parsemé de rocs et de rochers qu'il charriait vers sa destination finale. De la glace chut des câbles au-dessus de sa tête. Le bruit du moteur s'était altéré. Harman remarqua que des plaques de glace étaient apparues sur le toit, qu'une pellicule de glace recouvrait les barreaux de l'échelle et même les câbles. Trembland de tous ses membres, il rampa jusqu'au bord, regagna l'échelle avec un luxe de précaution, traversa le balcon festonné de glace et entra en titubant dans le salon chauffé. Un feu brûlait dans la cheminée. Prospero se tenait devant lui et s'y réchauffait les mains. Harman resta immobile plusieurs minutes devant les portes vitrées ornées de dentelles de glace, tremblant de rage autant que de froid. Il refoula son envie de sauter sur le mage. Son temps était précieux. Il ne tenait pas à rester sur le carreau une dizaine de minutes. « Seigneur Prospero, » dit-il en se forçant à adopter une voix raisonnable, « j'accepte de faire tout ce que vous souhaitez. J'accepte de devenir ce que vous souhaitez me voir devenir, ou du moins je ferai de mon mieux pour y parvenir. Je vous le jure sur la vie de mon enfant à naître. Je vous en supplie, laissez-moi regagner Ardis sans tarder. Mon épouse est blessée, peut-être mourante. Elle a besoin de moi. »
« Non. » répondit Prospero.
Harman se jeta sur le vieillard. Il allait lui briser le crâne avec son bâton à la con. Il allait... Cette fois-ci, il ne perdit pas conscience. La décharge électrique le catapulta à l'autre bout de la pièce et il rebondit sur l'étrange sofa pour tomber à quatre pattes sur le tapis ouvragé. Ébloui par les cercles rouges qui dansaient dans ses yeux, Arman se redressa en gémissant.
« La prochaine fois, je vous crame la jambe droite !» dit le mage d'une voix atone des plus convaincantes. « Si vous rentrez un jour chez votre femme, ce sera à cloche-pied. »
Arman s'immobilisa. « Dites-moi ce que je dois faire, » murmura-t-il.
« Commencez par vous asseoir. Non, à cette table que vous puissiez voir au dehors. »
Arman s'exécuta. L'éclat du soleil se reflétait sur le glacier et sur les falaises de glace. Les vitres étaient en grande partie dégagées. Les montagnes qui les entouraient étaient très hautes, une profusion de pics vertigineux, nettement plus impressionnants que ceux qu'Arman avait entrevus autour du Golden Gate à Machu Picchu. Le téléphérique longeait une crête et sur leur gauche, un glacier déboulait vers la plaine lointaine. Soudain, la cabine franchit une nouvelle tour et Arman se cramponna à la table pendant que l'édicule tanguait, sursautait, faisait crisser la glace, puis repartait vers les hauteurs. La tour s'en fut derrière eux. Arman se pencha pour la voir un peu mieux. Elle n'était pas noire, contrairement aux autres, mais d'un argent resplendissant, inondé de soleil, et ses arches et ses poutrelles de fer évoquaient une toile d'araignée festonnée de rosée matinale.
« De la glace !» se dit-il.
En se tournant vers la droite, suivant les câbles du regard, il découvrit le flanc tout de blancheur de la plus stupéfiante montagne qu'il ait pu imaginer. Non, cela dépassait son imagination. Des nuages se massaient à l'ouest, s'accolant à une crête aussi acérée, aussi impitoyable que la lame d'un couteau taillé dans l'os. Le flanc vers lequel il se dirigeait était parcouru de strates de glace et de roches et le sommet ressemblait à une pyramide de neige et de glace d'un blanc absolu. La cabine poursuivit sa pénible ascension en abordant par l'est cette majestueuse montagne. Arman découvrit une nouvelle tour posée sur une corniche que des câbles reliaient au sommet d'un pic. Encore plus haut, occupant le sommet de cette impossible montagne, se dressait un dôme d'une blancheur et d'une perfection totale, dont la surface était dorée par le soleil matinal, dont la masse était entourée de quatre tours blanches, le tout reposant sur un vaste plateau qui semblait jaillir des flancs de la montagne et qui était relié au pic voisin par une demi-douzaine de ponts suspendus aux formes audacieuses, dont chacun était 100 fois plus haut, 100 fois plus aérodynamique et 100 fois plus élégant que le Golden Gate à Machu Picchu.
« Quel est cet endroit ?» chuchota Arman. « Jomo Lungma, » répondit Prospero, « la déesse mère du monde. »
« Et cet édifice sur son sommet ?»«
Rongbok Pumori Chumu Langma Feng Dud Kosi Lotse Nupse Kumbu Aga Gatmandir Kan Otep Rausa, »
dit le mage,
« localement connu sous le nom de Taj Mwara. Nous allons y faire halte. »